Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir, vous êtes bien sur l'apérophonie. Et ce soir, on va accueillir trois camarades d'Urgence Palestine de Grenoble. Et en fait, c'est l'introduction d'une semaine d'émissions en soutien à la Palestine, parce que vendredi dernier, le 15 mai, c'était la Nakba, et on a choisi pour commémorer la Nakba de faire une série d'émissions en l'honneur de la Palestine. Ça sera donc de ce lundi, le 18 mai, jusqu'à samedi prochain. Aujourd'hui, on accueille donc Urgence Palestine, et ça sera l'occasion de raconter ce qu'est la Nakba. Demain, on sera avec le comité et qui mène la campagne pour la libération de Ali et à distance avec le collectif Samidoun. Mercredi, on sera avec le CIAG qui lutte contre l'industrie de l'armement dans les écoles d'ingénieurs à Grenoble. Jeudi et vendredi, on rediffusera deux émissions qui ont été faites à Rennes sur Canal B par 94 degrés à l'ombre sur les prisonniers palestiniens. Et samedi, on rediffusera une émission de Radio Saint-Ferréol avec deux personnes, des flottis qui sont interviewées. Mais ce soir, pendant une heure, nous avons l'honneur d'être avec trois camarades d'Urgence Palestine. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors bienvenue sur Radio Campus Grenoble. Donc on va commencer par vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous raconter, c'est quoi Urgence Palestine ?
Alors, Urgence Palestine, c'est un collectif de citoyens qui s'est développé en réaction à la situation dramatique que vivaient et vivent encore les Palestiniens de Gaza, Cisjordanie et surtout les territoires occupés. Donc, c'est un mouvement qui soutient la résistance du peuple palestinien. Et puis... voilà.
Qui existe depuis plusieurs années.
Oui, tout à fait. Oui, oui. À Grenoble, là-bas, depuis le début, en automne 2023.
Et c'est un collectif local, mais qui existe aussi au niveau national.
Au niveau national, dans à peu près 22 villes en France. Voilà.
On peut retrouver, du coup, dans différents endroits, des comités d'urgence palestine.
Exactement, tout à fait. Donc...
Et du coup, ça s'est créé en 2023.
Oui.
À Grenoble. Vous voulez raconter un peu comment ça s'est créé ?
Ça s'est créé autour déjà de la boussole palestinienne. Donc accompagné de militants, assos, étudiants et citoyens à la suite du génocide qu'on voit. Y a beaucoup de personnes qui rejoignent Urgence Palestine. Donc... voilà quoi.
C'est dans ce cadre-là que
c'est
ça s'est
créé. Oui, exactement. Mm-hmm. C'est dans ce cadre-là.
Et du coup, est-ce que vous voulez raconter, c'est quoi les campagnes et les mobilisations qu'il y a eu depuis le début ou les mobilisations actuelles de l'organisation d'Urgence Palestine ?
Alors, on met des campagnes déjà de boycott. On organise des manifestations. Donc, on va dire une fois par mois actuellement. Ça sert aussi à la défense des militants réprimés en France. On produit des vidéos et puis on porte une parole palestinienne. Et puis il y a aussi le jumelage Rehovot, Grenoble est jumelé avec Rehovot. Donc voilà.
Alors c'est quoi le boycott et c'est quoi les revendications autour
Alors
du boycott
les boycotts, c'est contre les entreprises complices. Donc y en a plusieurs qui sont connues, peut-être moins connues. Donc on a Carrefour, McDo, les entreprises comme Thales, ST Micro, Tronic, Microsystème, Acrol, Lille Rennes, Avenré, ne pas oublier aussi Zara, Coca, BMP, SodaStream, AXA, etc. etc. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Parfois on fait des petits rassos devant, on fait appel à boycotter devant Carrefour ou devant les banques. Donc voilà, à Grenoble, c'est comme ça que se situe, c'est comme ça qu'on essaye de militer. Voilà.
Et du coup, t'as parlé en particulier du jumelage entre Grenoble et Réauvotte. Et est-ce que tu veux développer un peu sur c'est quoi jumelage et les revendications dans le fait de demander la fin du jumelage ?
Actuellement, c'est toujours d'actualité. Donc, il y a des échanges avec la ville de Réauvotte, donc Grenoble-Réauvotte, donc étudiants, entreprises, etc. Donc, on essaye de se battre un petit peu pour déjumeler, on va dire, déjumeler la ville de Grenoble. Mmh. Et voilà.
Ok. Tu veux ajouter quelque chose ?
Ouais, avec plaisir. En fait, oui, je voulais juste apporter un petit point de précision aux paroles de camarades. C'est que, en particulier, ce jumelage porte avec l'Institut Weissmann,
oui,
qui est à Réauvotte. Donc, c'est un institut qui est fondé depuis les années 30, qui a beaucoup œuvré pour la fabrication des armes depuis le début. Ça s'est même transformé dans une station militaire pendant la Nakba. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est des innovateurs de l'armement jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est le fait que ça soit suspendu, c'est pas assez pour nous. Et on attend que ça soit vraiment rompu définitivement et supprimé, ce jumelage de la honte, en fait.
Tu dis suspendu parce que la ville dit avoir suspendu le jumelage.
Exactement.
Mais c'est pas réellement effectif. Il continue quand même le jumelage d'une manière ou d'une autre ?
Certainement, hein, sûr et certain, parce que là, c'est, ils disent suspendu, mais au final...
En tout cas, il est affiché à l'entrée de la ville de Grenoble.
Exactement.
Et du coup, sur les manifestations, bon, on peut vous retrouver facilement. Comment on peut avoir les infos des manifs, tout ça ?
Alors pour ça, on a une chaîne, une page Instagram. C'est Urgence Palestine Grenoble, tout attaché. Ainsi qu'un mail pour nous contacter, c'est facile aussi, c'est comité-palestine38@proton.me.
Ok. Et autour des mobilisations et tout ça, on a vu ces derniers mois, on a entendu parler de la loi Yadan et du coup de la répression des luttes en solidarité avec la Palestine. Est-ce que vous, vous êtes mobilisé sur cette question-là et est-ce que vous avez des choses à en dire ?
Franchement, c'est une loi complètement ridicule, liberticide, répressive et je pense complètement inefficace. Enfin voilà, c'est complètement injustifié. Enfin voilà.
C'est quoi les objectifs de la loi ? Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent réprimer ?
Je pense que c'est plutôt pour sanctionner les expressions de solidarité envers le peuple palestinien. Voilà.
Ça œuvre pour redéfinir l'antisionisme, la lutte antisioniste comme de l'antisémitisme. Et cet amalgame est vraiment un problème très, très énorme que l'État d'Israël a tellement œuvré pour l'établir. Et moi, je peux même argumenter que c'est antisémite de dire que l'antisionisme est équivalent à ou dire que c'est le nouvel l'antisémitisme. C'est le travail du CRIF en France et vraiment à l'international. Alors que lier l'identité juive à cet état génocidaire est très mauvais pour toutes les personnes juives dans le monde. Donc c'est évidemment une loi aberrante et j'irai aussi loin jusqu'à dire que c'est une loi antisémite.
Ok, du coup l'idée de la loi c'est de considérer que tout ce qui se positionne contre la colonisation israélienne serait de l'ordre de l'antisémitisme et serait jugé au nom de l'antisémitisme.
Exactement.
Et du coup exposerait les militants pro-palestiniens et de solidarité anticoloniale à des sanctions pénales.
Oui, tout à fait. On pourrait se retrouver avec des amendes, des peines de prison pour chanter dans la rue des slogans « Free Palestine », des choses aussi simples que ça.
Ok.
Je crois que c'est ça, 50 prisons et 75 000 euros d'amende.
Voilà.
Du coup, ça ouvre une répression facile et quasi automatique de n'importe qui au bon vouloir des autorités, quoi.
Oui.
Encore plus de ce qu'on a aujourd'hui déjà, ce qui est beaucoup.
Oui, il y a déjà une grande répression qui est cachée, mais
Vous, en tant qu'Urgence Palestine, vous avez été exposé à cette répression. On a entendu parler l'année dernière d'une dissolution. A priori, vous êtes encore là.
Oui.
Encore là, mais encore sous menace, ouais.
Vous êtes menacé de dissolution, mais c'est pas encore le cas, quoi.
Voilà, mais après, on continue et on verra bien.
Est-ce que vous voulez rajouter des choses pour présenter votre collectif ?
Alors, au niveau national, c'est à peu près les mêmes choses, en fait, que ce soit local ou national. Hein, l'objectif premier, c'est de sensibiliser les populations et de rendre compte du génocide, faire entendre les revendications qui sont la protection des civils, le respect du droit international, l'accès immédiat à l'aide humanitaire et la nécessité absolue de se retirer de tous les territoires palestiniens. Voilà. Donc, les mobilisations et les campagnes actuelles, c'est vraiment, c'est la même chose, que ce soit local ou national. Voilà.
Et du coup, vous vous mobilisez autour de manifestations, en diffusant de l'information, que ce soit avec des rassemblements, comme tu disais, d'appels au boycott ou avec... vos réseaux sociaux et vos médias sociaux.
Oui.
Et l'anti-armement aussi.
Oui.
On travaille beaucoup sur la question d'armement qui est très puissante à Grenoble. Après, vous dites qu'il y aura le SIAC dans quelques jours, donc pour apporter un peu plus de précision aussi, mais c'est une question très importante pour nous. Et le fait d'être militant pour les Palestiniens à Grenoble, c'est pas... Urgence Palestine travaille avec plein de camarades dans d'autres collectifs aussi. Donc sur les questions d'armement et aussi sur les questions de boycott du mouvement BDS, donc boycott, divestissement et sanctions contre l'État génocidaire. Et aussi dans la question du jumelage, donc c'est les trois axes principaux de Urgence Palestine Grenoble qui s'inscrivent dans la grande ligne d'Urgence Palestine au niveau national, où il y a des enjeux locaux similaires ou différents.
Merci. On va commencer en écoutant un premier morceau de musique et on continuera un peu plus en développant c'est quoi la Nakba.
Ok.
يما ويل الهوى يما ويلي ضرب الخناجر ولا حكم نادل فيا يما ويل الهوى يما ويلي ضرب الخناجر ولا حكم ومشيت تحت الشتاء والشتاء رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني بيضل عمر فدا ندر للحرية يما ويل الهوى يما على جراحي وانسى الجيش العيدة من كل النواحي والليل شاف الردى عم يتعلم بيا يما ويل الهوى يما والامل برجالي يا شعب
vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Grenoble avec l'apérophonie. Et aujourd'hui, on invite Urgence Palestine Grenoble, qui ont choisi ce dernier morceau de musique. Est-ce que vous voulez le présenter ?
Oui, carrément. C'est un morceau palestinien qui me tient à cœur. Ça s'appelle Yom Mamouel El Hawa. C'est vraiment de l'ordre du folklore palestinien qui refuse, en fait, pas seulement l'occupation, mais l'oppression dans toutes ses formes. Et c'est particulièrement pour ces paroles que ça a été relayé dans d'autres contextes de révolution arabe et de lutte du peuple. Donc c'est vraiment une chanson... comme quoi la lutte palestinienne a rassemblé les luttes arabes aussi de libération.
Voilà. Merci. Alors on a eu envie à la radio de faire cette semaine d'apérophonie autour de la Palestine, notamment parce que vendredi dernier c'était la Nakba et qu'on trouvait important de comme prolonger la commémoration de la Nakba à la radio. Mais la Nakba à la fois c'est connu et méconnu. Du coup, maintenant, on va parler de... Mais qu'est-ce que c'est la Nakba ?
Ouais, effectivement, c'est connu dans le sens où on peut très bien dire que la Nakba de 1948, c'est le début de la création d'État d'Israël. Ça a été choisi déjà le jour de commémoration pour que ça soit le 15 mai, parce que Israël a déclaré son indépendance le 14 mai. Donc c'était un choix symbolique. Mais donc c'est méconnu dans le sens où en aucun cas ça n'a commencé le 15 mai 1948. Déjà cette vague de nettoyage ethnique avait commencé bien avant, mais ça s'est intensifié et concrétisé pendant la Nakba de 1947 jusqu'à 1949. Jusqu'à l'accord d'armistice qui s'est passé. Après, dire ce que c'est le début, j'ai envie de dire que c'est pas facile. Il y a plusieurs historiens, penseurs, intellectuels, palestiniens et autres qui ont travaillé sur ce sujet. Par exemple, il y a Rachid Khalidi, par exemple, un historien palestinien qui était professeur à Columbia aux États-Unis. D'ailleurs, récemment, il a démissionné en protestation contre la complicité de l'université dans la répression des étudiants pro-palestiniens. Donc lui, il a écrit dans son livre qui s'appelle « La guerre de 100 ans sur la Palestine », que je recommande d'ailleurs. Il a écrit en 2017 et il a considéré qu'il a choisi 1917 comme début avec la promesse de Balfour qui est que les Anglais ont fait à Lord Rothschild qui était un juif sioniste influent qui finançait beaucoup le mouvement de migration et d'établissement des colonies juives dans la terre de Palestine. Donc c'est très bien aussi comme date. Après, on peut revenir encore plus loin et montrer que les premières, tout ça évidemment c'est très bien documenté dans le monde académique, les premières colonies juives européennes installées en Palestine, ça revient jusqu'à 1860, des écoles d'agriculture pour apprendre les Européens, enfin les Juifs européens qui migraient vers la Palestine, comment travailler avec cette terre qu'on connaît pas, tout simplement. Donc il y a beaucoup de choses, mais il y a plusieurs vagues. Une vague importante au début du XXe siècle, après les congrès sionistes au niveau international qui ont déclaré et décidé très concrètement qu'on va intensifier ce mouvement de migration vers la Palestine. Aussi dans les années 20, surtout parce que on remet quand même la Palestine dans le contexte arabe. Les pays arabes sortaient d'une colonisation ottomane, de l'Empire ottoman, on le voit comme on veut, mais c'était un mouvement soutenu par les armes et tout, de l'Occident notamment. Donc c'était directement l'anglais, mais c'était quand même les Français, entre autres, qui ont soutenu ces armées arabes pour dégager les Ottomans. Et quelques années plus tard, ils prennent leur place dans les divisions connues, donc dans la région, Palestine, Irak, Jordanie et Égypte d'aujourd'hui étaient sous l'Empire britannique. Et du coup, Syrie, Liban, du coup, dans la région, étaient sous l'Empire, sous la colonisation française. Ça s'appelait mandat français, c'était une colonisation. Mmh. Donc ça s'inscrit vraiment dedans, et là on voit très bien que ça s'est tellement intensifié à l'arrivée des Anglais en Palestine. Ce transfert de terres de Palestiniens jusqu'aux Juifs européens, j'insiste, Juifs européens, et c'est vraiment sur les deux décennies qu'on va voir la création de nouvelles milices comme le Haganah, le Irgun. Donc ils attaquaient des villages, ils ont des villages palestiniens, ils ont violé des femmes, ils ont fait beaucoup de choses. Donc on peut dire d'une manière ou d'une autre, c'est le début de la Nakba aussi. Et évidemment, après la Deuxième Guerre, la Shoah et la migration encore plus massive vers la Palestine, c'est là où ça s'est complètement éclaté. En 1947, après la déclaration de l'ONU, du coup novembre, si je me rappelle bien, 17 novembre, à vérifier, 1947, de le plan de partition de l'ONU, qui accorde la majorité du terrain au peuple juif en Palestine.
Alors, la commémoration de la Nakba, elle est située, donc c'est un choix, c'est un jour choisi qui est du coup le 15 mai pour commémorer une période qui s'est écoulée de 47 à 49 et qui est l'exil forcé de plus de 800 000 Palestiniens et qui marque donc ce que tu nommes nettoyage ethnique et qui a sa source du coup beaucoup plus ancienne que cette période-là. Et qui mène donc à ce plan de partition. Tu veux expliquer c'est quoi le plan de partition ?
Exactement. Donc les plans de partition, il y a plusieurs tentatives anglaises qui divisent le territoire de manière évidemment injuste, quelle que soit la division, pour accorder aux Palestiniens une partie de leur territoire historique et donne une partie du territoire aux Juifs pour établir un État juif en Palestine. Donc, à la fin, il y a eu, même si les Anglais ont beaucoup facilité la migration juive en Palestine, ils ont quand même eu des affrontements avec ces milices juives. Et à la fin, surtout après la Deuxième Guerre, l'ONU était nouveau. Ils ont dit, tenez ce dossier, travaillez là-dessus. Et c'est l'ONU qui a tranché, du coup, en novembre 1947, avec la résolution, du coup, le 29 novembre, je vois la source là devant moi, la résolution 181, qui partitionne la Palestine. Et elle a donné, donc, à peu près la moitié du terrain à l'État juif. Et à l'époque, la population juive composait 60% à peu près de ce territoire du coup accordé pour les juifs, et c'était pas assez pour établir un État juif. Donc c'est clairement là où ça intensifiait le plan de nettoyage ethnique. Même concrètement, il y a eu le plan d'Alet. Donc c'est un plan en interne qui est déclaré le 10 mars 1948 qui a attaqué donc avec les branches, les milicionistes, donc pas encore du coup ça devient plus tard le noyau de l'armée israélienne d'aujourd'hui, le Tzahal, mais à l'époque c'était des milices qui ont porté cette campagne de nettoyage ethnique qui va attaquer les villages palestiniens dans le territoire du coup accordé aux juifs selon l'ONU, du coup par des moyens extrêmement violents. Et ça, c'est ça qui va forcer l'expulsion de, donc, les chiffres. C'est évidemment des chiffres extrêmement conservateurs. Si on dit 800 000, c'est forcément plus. Mais disons, du coup, 800 000, ça représentait à l'époque 70% des Palestiniens palestiniennes. Et ils vont aller dans les, du coup, au début, vers la bande de Gaza et Cisjordanie, donc d'aujourd'hui, et Jordanie, enfin la Transjordanie de l'époque, et Syrie, Liban, Égypte, tous les pays autour, et même certains plus loin. Et cette appellation de Nakba, en fait, ça c'est un peu le travail d'un intellectuel qui s'appelle Constantin Zreh, qui était président de l'université américaine à Beyrouth. Vraiment, il publie un livre qui s'appelle, donc en arabe, Ma'na Nakba, et ça veut dire le sens de la catastrophe. Et c'est comme ça qu'on reprend ce terme, et c'est devenu le terme accepté dans toutes les langues qu'on
Ça
dit
vient de
Nakba.
Lui, l'usage de ce terme.
Oui, c'était un intellectuel, bon, c'est pas important, c'est un intellectuel syrien chrétien qui a ensuite, qui devient plus tard le président de l'université américaine à Beyrouth. Et il a beaucoup œuvré pour documenter et même théoriser, en fait, à quel point c'était catastrophique ce qui s'est passé aux Palestiniens et toutes les conséquences. Sur les pays autour, mais quand même les Palestiniens et Palestiniennes en premier lieu. Voilà.
Et ce côté catastrophique, on l'entend dans l'usage du terme nettoyage ethnique. Est-ce que vous voulez expliquer pourquoi c'est important d'utiliser ce terme-là?
Oui, c'est une très bonne question. C'est pas forcément un terme reconnu dans le droit international. Mais c'est un terme qui veut dire, donc, qui est quand même repris dans beaucoup de contextes et d'ONG, etc., qui veut dire le transfert forcé des populations. Et donc ça, c'était clairement le projet. Du coup, d'un point de vue juridique, il y a l'intention, il y a l'application, il y a tout ce qu'il faut pour le déclarer ainsi. Donc ça, on le voit, ça remonte à des années avant la Nakba, et même avant, du coup, le fait que les États arabes ont déclaré la guerre à cet État nouveau-né en 48. Mais c'était déjà le plan, c'est exactement ce qu'il voulait, Ben Gurion, il le dit, c'est documenté, on peut le voir dans, par exemple, le livre d'un historien israélien très sioniste d'ailleurs, qui s'appelle « Le sionisme et les Palestiniens », qui est sorti en 78. Il dit que Ben-Gurion a dit « Je suis pour le transfert obligatoire, je vois rien d'immoral ». Et Ben-Gurion, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'était le premier ministre d'Israël. Et il a dit à l'agence juive en 1938. Donc pour lui, il n'y avait pas un souci. La question, c'était comment ? Comment on transfère ces populations ? Donc, que ça soit... L'idée, c'était... On essaye de faire des accords avec des pays arabes autour. Donc, ça a très bien marché. D'ailleurs, il y avait des accords avec le roi Abdallah de Jordanie, parmi d'autres, pour prendre le plus de Palestiniens, Palestiniennes possible, pour laisser la place aux Juifs. Et il y avait aussi... Enfin, il a dit que c'était temporaire. Temporaire, on va accepter ce plan parce qu'on veut plus. On va reprendre, dans 25-30 ans, on va reprendre l'expansion. Et là, 78 ans plus tard, on voit très bien que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'était ça le plan, le nettoyage ethnique. Et donc, c'est une sorte de génocide, même si c'est pas le terme accepté par rapport à la Nakba en soi, mais c'est la continuité de la Nakba, le génocide qui se passe aujourd'hui. C'était le plan dès le début. Dès le début, je dis, dès les années 20, avant l'existence de l'État d'Israël et même avant les catastrophes, avant la Deuxième Guerre, plein de choses.
Du coup, le processus de nettoyage ethnique a commencé bien avant la période qui commémore la Nakba ou qui est couramment appelée la Nakba et s'est prolongé et se prolonge jusqu'à maintenant.
Oui, tout à fait. Donc, la Nakba reste quand même une intensification très importante de ce projet. Et c'est donc perdre 70% de la population du territoire, c'est pas rien. Mais et la deuxième très grande vague, c'est ce qu'on appelle donc l'Anaxa. L'Anaxa, c'est commémoré le 5 juin. C'est suite à l'attaque de l'État sioniste contre donc la Cisjordanie, Gaza, Syrie et Égypte et Jordanie aussi en 1967. Et là aussi, ça va être une nouvelle vague de réfugiés palestiniens, palestiniennes qui vont arriver en Syrie, en Jordanie, en Égypte. Et même Israël prend une partie, enfin le désert de Sinaï égyptien. Ils vont prendre le Golan syrien, ils vont prendre le sud du Liban. Et c'est vraiment, une partie du Sud, ça se concrétise quelques années plus tard quand même, 15 ans plus tard, en 82, quand ils vont vraiment full envahir le Liban, arriver jusqu'à Beyrouth, quoi. Et ça, c'est la deuxième très très grande vague. Et l'Anaxa, c'est un autre terme en arabe qui veut dire la rechute. En fait, c'est une sorte de nouvelle Nakba. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui s'est passé entre-temps. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui s'est passé depuis. C'est juste que ça, c'est les points clés, même si les chiffres sont difficiles à imaginer. Mais c'est vraiment flagrant ce qui s'est passé dans ces deux dates. Et on peut dire très facilement que le génocide actuel, c'est la troisième très très grande campagne de nettoyage ethnique. Donc, qu'on qualifie maintenant officiellement de génocide suite à plein de corps juridiques, mais après tout le reste c'est de génocide si on s'éloigne du droit international et on regarde objectivement, parce que c'est le fait de dire que c'est génocide, c'est extrêmement compliqué, mais voilà, c'est les mêmes mécanismes. La différence, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus documenté et difficile à cacher. Mais c'est les mêmes mécanismes. Voilà.
Merci. Est-ce que la Naxa, c'est le 5 juin. Il y aura quelque chose à Grenoble pour la commémoration de la Naxa ?
Carrément. Bien sûr, comme l'année dernière, on a commémoré la Naxa. C'est une date importante à souligner. Cette année, il y aura une action devant Thalès, du coup, pour à la fois dénoncer la complicité dans l'armement de l'État génocidaire, mais aussi pour commémorer la Naxa, et pour nous, donc, la Naxa et la Nakba continuent, qui ne s'arrêtent pas, en fait. Enfin, même si je me permets d'ajouter, c'est que... C'est quand on parle de ces chiffres et de l'étendue de ces campagnes de nettoyage ethnique, Israël à la fois va être dans le déni et dire que ça ne s'est jamais passé, et à la fois dire on va vous refaire une Nakba. Donc c'est vraiment un truc très important que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On dit que non, c'est des chiffres gonflés, c'est pas vrai, etc. Mais à la fois, ils disent oui, on veut leur tuer tous. Enfin, c'est pas caché. C'est pas seulement. Enfin, si seulement c'était les dirigeants d'Israël, ça serait une chose. Mais même malheureusement, une grande partie de cette population. Était toujours là, mais en tout cas c'est flagrant maintenant, il n'y a plus besoin de cacher, on le dit très ouvertement, on veut éteindre le peuple palestinien, tout simplement. Donc c'est ça le cœur de la Nakba, le déni du mémoire des Palestiniens, qu'on leur dit non, en fait, vous êtes jamais venus d'ici, ou sortir que ce soit des arguments pseudo-historiques ou ou des arguments bibliques, mais dans tous les cas, en fait, dans... il y a une sorte de consensus assez clair là-dessus. Enfin, par rapport à la Nakba, ça a pris 30 ans, parce qu'il y a une loi en Israël qu'on peut rendre public les archives 30 ans plus tard. Et c'est vraiment suite à ça que les historiens israéliens ont pu lire une partie déjà des archives. Et déjà, ils étaient étonnés eux-mêmes de ce qu'ils ont découvert. C'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelle les nouveaux historiens, qui ont documenté une partie de ce qui s'est passé à la Nakba, alors que bah, les Palestiniens et Palestiniennes le disaient depuis 1948. C'est juste qu'on ne le croyait pas. Donc c'est un peu ça le souci qu'on vit aujourd'hui, qu'on va, mentir. Et on va pas dire la vérité, et on va nous noyer la vérité autant qu'on peut, et c'est pas ça que les gens vont retenir. C'est arrivé le 7 octobre, on va cacher le fait qu'Israël a déclenché la directive Hannibal, qui est concrètement que on va se, les soldats doivent se suicider à la place de... De se rendre otages, et ils ont du coup dans des hélicoptères, ils ont bombardé du coup leur propre peuple et tué une grande partie des gens qui sont morts du coup le 7 octobre. Et ça, c'est Haaretz, des journaux israéliens, c'est là, c'est pas, c'est des sources israéliennes qui documentent ça, mais c'est noyé. La France, les journaux français, les médias français vont jamais les mettre. Et ça serait même antisémite de le dire, je sais pas, d'une manière ou d'autre, alors que c'est, enfin, le déni est vraiment au cœur du récit de l'existence israélienne. Réécrire l'histoire, même jusqu'à ce que Netanyahu est arrivé à dire que c'est les Palestiniens qui ont fait la Shoah, d'une manière ou l'autre. Donc,
voilà. Pour faire un petit lien avec la première partie, du coup, on a évoqué la lutte contre le jumelage entre Grenoble et Rehovot. Et du coup, Rehovot, c'est une ville coloniale israélienne. Et donc, elle a été créée à quel moment à partir de ce résumé historique?
Vous avez la date, peut-être? J'ai pas la date, mais je sais que c'est parmi les premières colonies juives, bien avant la Nakba.
Elle s'appelait Zarnouka.
Oui, ça a, fait,
ouais, ça a été fait sous
sur les ruines
de Zarnouka. Voilà.
Merci.
Je crois que c'était fin 19e siècle, Rehovot, la création de cette ville. Et en effet, c'était après un nettoyage ethnique des habitants de Zarnouka. Ça, c'est sûr.
Merci. On va passer à un deuxième morceau de musique et on se retrouve juste après sur Radio Campus Grenoble.
وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل فليمسي نسبي لكن الطلقة وحجارة أطفال الضفة كالطلقة وطني نسبي لكن الطلقة وحجارة أطفال الضفة كالطلقة كلمة فع هل تسمع هل تسمع هل تسمع
Vous êtes toujours à l'écoute de l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble avec nos invités de Urgence Palestine Grenoble qui ont aussi choisi ce deuxième morceau de musique. Est-ce que vous voulez le présenter ?
Oui, après j'avais oublié de préparer, mais ça c'est un morceau de Ahmed Karbour, donc c'est qui est décédé malheureusement il y a deux mois, un truc comme ça, un mois, deux mois. Au Liban, c'est un chanteur libanais engagé qui a écrit beaucoup de chansons très connues de résistance, y compris cette chanson Daffa, et celle qui est encore plus connue, je crois, c'est Una Dikom. Et ça, c'est, je crois que c'était pendant la première intifada qu'il a écrit, mais à vérifier, il ne faut pas me citer là-dessus, là. J'avais oublié de regarder auparavant.
Merci. Alors, dans ce qu'on a entendu juste avant dans l'émission, c'est que du coup, dans tout le processus de nettoyage ethnique qui a duré du coup, pendant plus d'un siècle ou un siècle et demi en Palestine, il y a eu du coup des millions, des milliers, je ne sais pas en fait les chiffres exacts de réfugiés et d'exils forcés de Palestiniens qui ont dû fuir leurs terres lors de la colonisation de peuplement israélienne. Et du coup, c'est quoi la situation actuellement de tous ces réfugiés palestiniens ?
Oui, c'est ça, c'est bien des millions de réfugiés. Qui sont aujourd'hui empêchés de rentrer sur leur terre. En France, pour parler de la France, les réfugiés qui militent pour la Palestine subissent une énorme répression, comme le gel des avoirs et des comptes bancaires, ou de nombreux procès pour apologie du terrorisme, utilisé à tort et à travers pour... fatiguer les militants et leur faire peser de grosses sommes, enfin, les faire payer des milliers d'euros à chaque fois pour les procès, les avocats, etc.
Je me permets de rebondir là-dessus. Donc demain, donc, on sera en présence du collectif pour la libération de Georges Abdallah qui milite dans le cadre de la campagne pour la libération de Ali, du coup, qui est un réfugié palestinien en France qui s'est fait retirer son statut de réfugié et emprisonné en France. Et avec... À distance, on interviewera aussi le collectif Samidoun qui lutte pour la liberté de tous les prisonniers palestiniens en Palestine occupée comme en Europe. Donc ça sera un peu le sujet de demain, la question des réfugiés et de la répression des réfugiés en Europe. Et du coup, quand tu dis les réfugiés ils sont empêchés de retourner sur leur terre, c'est ce qui est revendiqué avec le droit au retour, c'est ça ?
Tout à fait. Le droit au retour, c'est la revendication selon laquelle les Palestiniens et Palestiniennes qui ont dû fuir ou été déplacés lors des différentes vagues de nettoyage ethnique, comme 48 et 67, la revendication du droit au retour, c'est-à-dire le droit de rentrer chez eux pour eux et pour leurs descendants. Okay. Voilà, actuellement, parlant des réfugiés, ils sont dans de nombreux camps. Pour quelques-uns, ils ont pu venir en Europe, mais il y a de nombreux camps dans plusieurs pays, Syrie, Liban, Cisjordanie, qui sont éparpillés.
Mais ça veut dire, par exemple, des personnes qui ont fui au moment de la Nakba en 48, par exemple, c'est des personnes qui peuvent encore vivre dans des camps actuellement, ou eux, ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants.
Leur descendance, oui, tout à fait.
Du coup, il y a plusieurs générations de personnes réfugiées qui vivent dans des camps.
Ouais.
Après, petit point de précision, c'est pas forcément des camps, donc des tentes. Ça commence à faire un moment. Donc, parfois, c'est des bidonvilles, parfois, c'est un tout petit peu plus construit. Mais dans tous les cas, c'est pas des conditions dignes. Et pour ne pas déplacer la responsabilité, même s'ils étaient dans des conditions dignes, ils ont le droit de retourner dans leur terre. Oui, et même d'un point de vue moral et d'un point de vue du droit international, qu'il a dit directement à la fin de l'année Kba. Genre en 1949, ils ont sorti dans la résolution 194 cette résolution qui dit que chaque personne palestinienne qui décide de rentrer chez soi, ce droit devrait être en fait sauvegardé. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas, il devrait être compensé. Donc ça, c'est vraiment directement. Ça, c'est le 4 novembre 1949. Et ils n'ont rien vu. Voilà.
Et donc, ce droit au retour, il est revendiqué. Et il y a des luttes pour le droit au retour.
Oui, tout à fait. Il y a notamment... les luttes prennent différentes formes, mais il y a eu des marches pour ce droit au retour. Des marches pacifiques le long des frontières israéliennes, pendant lesquelles il y a eu des dizaines de morts et beaucoup de blessés par Israël. En 2018 et 2019, il y a des longues marches. Et puis, il y en a tout le temps, tous les ans, il y a différentes formes de manifestations pour ce droit au retour.
Et du coup, et au niveau, par exemple, en France, c'est revendiqué aussi. Ça fait partie, par exemple, des revendications d'urgence palestine.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est central.
Et du coup, là, actuellement, je ne sais pas si ça si tu as des choses à rajouter sur ces questions-là, ou ça vous parle de faire un point d'actualité en ce moment sur ce qui se passe dans la région. En Palestine et autour de la Palestine.
Ouais. Pour moi, c'est bon.
Oui. Carrément, c'est très important de le dire parce que... on a parlé de la Palestine jusqu'à là parce que c'est quand même la Nakba quand on parle. Mais Israël a clairement des revendications qui dépassent la Palestine mandataire, donc ce qui est la Palestine du Jordan à la mer. Et c'est comme ils l'ont fait en 1982, ils ont attaqué le sud du Liban, ils ont envahi le sud du Liban même par voie terrestre. Et là, ils répètent la même chose, ils ont tué des milliers de Libanais et Libanaises dans les derniers mois. Et sous prétexte de l'attaque de Hezbollah, qui est arrivée en février, je commence à perdre le temps, alors que c'est Israël qui avait pas respecté le cessez-le-feu en faisant 500 attaques depuis l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Donc c'est loin d'être le cas, ce n'est qu'un prétexte pour continuer et faire plus. Comme, tout comme le prétendu soutien du peuple iranien, alors qu'ils sont en train de tuer le peuple iranien, qui évidemment œuvre pour sa liberté contre son régime, n'empêche, c'est l'État d'Israël qui tue les Iraniens aujourd'hui. Et juste dans la suite de ces projets expansionnistes, aussi depuis la chute du régime d'Assad en Syrie, du coup, en décembre 2024, ils ont attaqué, mais le lendemain, un pays déjà qui est tellement affaibli après 14 ans de guerre civile. Israël a envahi encore plus de territoires. Ils ont pris les hauteurs de Jabal Sher. Et maintenant, ils ont une très, très bonne vue sur Damas. Et tout simplement, en fait, Israël fait ce qu'elle veut. Elle prend ce qu'elle veut. Et jamais... elle sera réprimée. Et c'est exactement ça, notre revendication, nous, militants en France, sanctionner Israël. C'est très simple, sanctionner, dégager l'ambassadeur et arrêter la vente des armes, tout simplement. Enfin, c'est la moindre des choses. Ça, c'est que le début. Est loin d'être le cas, hein, même si la France a beau annoncer ça, on découvre à chaque fois que c'est loin d'être le cas, et l'Europe finance, continue à financer, il y a eu une tentative de passer une loi au niveau européen, et évidemment c'est pas passé, une loi qui va considérer qu'il faut boycotter Israël, mais loin d'être le cas, en tout cas, pas encore. Mais on œuvre pour arriver à ce stade-là, on œuvre pour la fin de l'apartheid en Palestine et l'impunité israélienne au-delà de la frontière de la Palestine. C'est que, tout comme ça, ce qui a été fait contre l'apartheid de l'Afrique du Sud. Et c'est vraiment pour ça que le mouvement BDS est tellement ancré dans la lutte qui s'est passée du coup en Afrique du Sud. On essaie de reprendre et de faire ça. C'est la communauté civile palestinienne qui l'a commencé dans le début des années 2000. Et on reprend ça. Donc vraiment, on est pour la résistance dans tous ses moyens. C'est que ça soit le boycott, les événements culturels et tout ce qu'on fait, c'est... C'est vraiment, que ce soit des manifestations ou des conférences ou des projections de films, c'est vraiment pour sensibiliser et inviter les gens à boycotter, à mieux dépenser leur argent et à appeler ces gouvernements au boycott et aux sanctions de cet État génocidaire. Voilà, qui est mauvais pour tout le monde, qui est mauvais pour les Palestiniens, Palestiniennes, pour les pays arabes autour, et qui est mauvais pour les Juifs eux-mêmes aussi. On n'est pas rentré dedans, mais c'est une question assez importante aussi.
Oui, du coup, un boycott à la fois commercial, de ne pas se tourner vers des entreprises qui soutiennent clairement ou sont implantées sur les terres colonisées palestiniennes ou qui soutiennent clairement l'État génocidaire, pardon. Ou le boycott culturel, comme on voit avec l'appel à boycott de l'Eurovision, ou aussi le boycott universitaire pour refuser les jumelages et les partenariats.
Exactement.
Et du coup, pour parler un peu des mobilisations ici, il y a eu qu'est-ce qui s'est passé à Grenoble dans le cadre de la commémoration de la Nakba vendredi dernier ?
Oui, du coup, vendredi, pour la Nakba, on a fait une manifestation. Du coup, en prenant un temps de prise de parole pour expliquer ce qu'est la Nakba, et on a marché en créant nos slogans habituels en centre-ville de Grenoble, et on a rejoint la veillée du collectif Liban-Palestine, qui est un collectif qui organise des veillées pour rendre hommage aux martyrs, tous les mercredis à Victor Hugo vers 18h30 et le vendredi à la place Notre-Dame.
C'est quoi l'objectif de ces veillées ?
C'est la manière dont je le vois, c'est un temps de visibilisation. Vraiment de rendre hommage, il y a des photos des martyrs, des bougies, et de discuter avec les passants pour voilà, prendre un temps de... Ouais, et de recueil et de sensibilisation. Ouais.
Mmh. Oui, puis c'est intéressant d'avoir des photos et de sortir des nombres, ouais. Et de redonner une dignité et une vie à des personnes dont la dignité est effacée en étant réduite à des chiffres qui sont colossaux et... à Téhéran, qui sont liés au génocide, mais qui aussi effacent des individualités. Et est-ce que vous voulez nous parler des prochaines mobilisations qui vont avoir lieu à Grenoble ? À Grenoble ou ailleurs, d'ailleurs ?
Oui, donc je vais rappeler le tractage devant Thalès, le 5 à 8h.
C'est où, Thalès ?
C'est à Moiran. voilà, c'est vraiment venir tracter et sensibiliser et dénoncer la participation de Thalès au génocide en cours. Et ensuite, donc, l'éveillé, qui continue toute l'année, mercredi et vendredi. Et aussi, une autre chose à laquelle je viens de penser, Cabaret Frappé, en juillet, à Grenoble. Il y a Barbara Bush qui passe, et on va appeler prochainement à un boycott, parce qu'elle a apporté un énorme soutien à Israël. Elle a fait des concerts en Israël, et elle est totalement sioniste.
Et elle soutient la loi Yadam.
Oui, et elle a signé la tribune, tout à fait.
Et même, je peux ajouter qu'on va commémorer cette année la date d'assassinat de Hassan Kanafani, un écrivain palestinien, intellectuel et une des figures très importantes de la résistance palestinienne marxiste. Et ça va être du coup, donc sa mort, c'est la date exacte, c'est le 8 juillet. On va commémorer sa mort avec un événement à déterminer, date et lieu, ça sera autour du 10-11 juillet. Regardez nos réseaux pour les détails qui vont suivre plus tard.
Eh bien justement, est-ce que vous voulez rappeler comment on regarde vos réseaux et comment on vous suit ?
Réseau. Moi, je voulais juste rajouter pour le 7 juin.
Oui,
avec l'association Éducation for Gaza, il y aura un tournoi de foot donc, au village olympique. Donc, un tournoi pour les jeunes de 9 à 13 ans. Donc, je demande à tout le monde de s'inscrire. Et puis, j'espère qu'on aura beaucoup de monde. Voilà.
Super. Merci. Oui, je vous ai un peu coupé dans c'est les autres mobilisations.
Voilà.
Pardon. Alors, du coup, on peut revenir sur comment on vous suivre.
Ouais. Du coup, on est sur Instagram. Notre page, c'est Urgence Palestine Grenoble. 100 points, puisqu'on a un ancien compte qui ne marche plus où il y avait un point. Du coup, voilà. Faut pas
faire en un seul mot, Urgence Palestine Grenoble.
Voilà, c'est taché. Et il y a notre mail pour être inscrit sur la mailing list qui est comité-palestine38@proton.me.
Et Urgence Palestine, c'est un collectif. Est-ce que c'est possible de le rejoindre, de se mobiliser avec vous, de s'organiser avec vous ?
Oui, carrément. Pour ça, il y a un petit peu deux manières de nous rejoindre. On a un petit peu un groupe où c'est possible de nous rejoindre sur des actions. Et sinon, pour nous rejoindre vraiment, on peut nous contacter et on fait des réunions d'accueil régulièrement.
Super, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot ?
C'est difficile de se limiter, il y a tellement de choses de dire, ouais. Mais c'est vraiment si on n'a peut-être pas posé les mots dès le début, pourquoi on est antisioniste, parce que c'est un projet le sionisme est un projet profondément raciste contre tout le monde, contre vraiment tout le monde. Et c'est quelque chose que j'invite les gens à s'informer, que ça soit sur les réseaux, il y a plein de pages Instagram qui expliquent, ou TikTok, des livres, des sources. Il y en a certains sur notre site Urgence Palestine, mais aussi faites votre propre lecture. Ça ne peut faire que du bien, parce que encore une fois, il y a un consensus. En fait, la vérité est du côté du Palestinien, tout simplement.
Merci beaucoup. On mettra sur la page du podcast les références et les liens que vous nous donnerez et aussi les moyens de vous contacter. Merci beaucoup pour votre présence à la radio. C'était un plaisir de vous accueillir.
Merci à vous.
Merci.
Et avant de terminer, je voudrais souhaiter un immense joyeux anniversaire à notre technicienne de ce soir.
Joyeux anniversaire.
Merci beaucoup à la technique et merci à vous pour votre présence. Et bonne soirée sur Radio Campus Grenoble.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !